Bonjour à tous. Alors ce matin, on termine la série sur Dieu et l'Évangile. L'Évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Alors qu'est-ce qu'on a revu? En fait, la bonne nouvelle était un message qu'on communique, l'œuvre aussi simple de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, un message compréhensible, un message qui se partage, un message qui se reçoit, un message qui transforme. Bref, un message qui avait vocation à circuler. Si c'est une bonne nouvelle. Et les bienfaits de ce message, on avait vu, c'était quoi? C'était le salut. C'était cette relation restaurée entre Dieu et chacun d'entre nous. On avait vu dans la deuxième rencontre qu'en fait, c'était un véritable trésor, un bienfait. Cette bonne nouvelle faisait de nous une nouvelle création, une nouvelle naissance, un nouveau départ pour celui qui saisissait ce message. La troisième rencontre a été l'occasion de voir qu'en fait, cette réception de cette bonne nouvelle, elle n'est que possible par la puissance de Dieu. Il y a eu la nécessité que Dieu touche nos cœurs. C'est lui qui nous l'a fait connaître. Et quand on reçoit ce message, c'est là qu'on parle dans le milieu chrétien de la conversion. On accepte cette bonne nouvelle parce que Dieu a touché nos cœurs. Et c'est lui qui produit cette œuvre nouvelle. Enfin, on avait aussi vu que si c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il y a des bienfaits. Non seulement cette restauration qui a été rendue possible, mais il y a cette joie de pouvoir savourer que cette relation est restaurée. Cette possibilité de confesser sa faute, cette possibilité de se dire, mais en fait, Dieu, il a pourvu à tout. La joie de se savoir à l'abri de Dieu. Un pécheur pardonné. Il y avait aussi cette notion, si c'est une bonne nouvelle, c'est parce qu'on sait qu'on est pardonné. Qu'on est réconcilié. On a vu ça avec le psaume 32. Paul nous avait parlé avec le psaume 63, en fait, d'un message qui nous reconnecte effectivement à Dieu. Contempler Dieu. Trouver plaisir en lui. Notre soif était étanchée par lui. C'est pour ça qu'on dit que c'est Dieu qui est la bonne nouvelle. Ma joie, mon défenseur, mon secours, c'est mon Dieu. Et enfin, dimanche, que de ce message dépend l'unité de l'Église. Alors, c'est vrai que c'est un sujet vaste. Je vous l'avais dit, la bonne nouvelle nous reconnecte à Dieu. Mais non seulement nous reconnecte à Dieu et nous le fait connaître, hein, c'était l'objet de la prière. Jésus priait parce que, en fait, il nous dit que, en connaissant Jésus-Christ, en connaissant cette bonne nouvelle, il nous reconnecte à Dieu. On a la possibilité de connaître Dieu, notre Créateur. Et le fait de le connaître, d'être réconcilié avec lui, ben, il nous permet aussi d'être réconciliés les uns envers les autres. Dieu nous reconnecte les uns aux autres et donne à l'Église cette vocation d'unité, mais d'être aussi témoin. Par ce témoignage, non seulement on a un message à partager oralement, mais ce message est vu dans l'unité. Et c'était une source de témoignage. Et Jésus a prié pour cela. Voilà ce qu'on a vu sommairement ces dernières rencontres. Dieu est l'Évangile. Dieu est la bonne nouvelle. Et ce matin, comme une petite synthèse, en fait, je voudrais m'attarder sur, alors je le fais pas souvent, mais sur un verset. J'avais à cœur de revenir sur un verset qui m'a touché, qui m'a interpellé, qui m'a questionné. En fait, un des versets qui n'est peut-être pas si évident et qui facilement, dans nos lectures, dans nos méditations quotidiennes, on passe. C'est vrai, dans la Bible, il y a parfois des vérités, des expressions. Et on se pose pas toujours la question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression? Ça semble des fois un peu conceptuel. Et ce matin, je voudrais méditer sur ce passage extraordinaire de, alors c'est facile à retenir, 1 Timothée 1, 11, qui nous dit « Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. » Conformément à l'évangile, donc conformément à la bonne nouvelle de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. La bonne nouvelle de la gloire de Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. C'est quoi la bonne nouvelle de la gloire du Dieu bienheureux? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? Et je pense que c'est un verset qui va nourrir notre adoration, parce que ça nous parle de la gloire d'un Dieu bienheureux. Et quand on comprend ce verset, notre adoration. Et pour accompagner ce texte, je voudrais qu'on prenne un autre texte dans Matthieu 17, même si on va pas s'attarder beaucoup sur cette lecture, et c'est Luc qui va nous faire tout à l'heure la lecture, et c'est un moment où justement les disciples ont accès à la gloire de Dieu. Où les disciples ont accès à un moment glorieux. Un moment où on va voir le Père qui aime le Fils. Mais j'y reviendrai un peu plus tard, on va prier. simplement. Seigneur, c'est vrai, moi je veux te remercier pour la bonne nouvelle de l'Évangile. Merci pour ce message qui a été partagé depuis des siècles et qui nous est parvenu jusqu'à nous, ce message d'une réconciliation entre Dieu et chacun d'entre nous. Réconciliation qui a été rendue possible par l'œuvre de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Et Seigneur, nous avons vu que ce message, ça change tout. Ça change nos relations, ça change notre rapport avec notre péché, ça change notre rapport avec toi, ça change notre rapport sur notre raison de vivre. Mais pour que ce message puisse être reçu, connu de nous, bah, y a eu besoin d'une intervention de ta part. Et c'est ta grâce, c'est la puissance de ton Saint-Esprit qui a révélé ces choses. Seigneur, je prie pour ce matin pour que nous puissions encore méditer sur cette bonne nouvelle. Méditer sur ce Dieu glorieux, ce Dieu de gloire qui est bienheureux. Parce que voilà comment Paul présente cette bonne nouvelle. Un Dieu glorieux, bienheureux. Seigneur, tu connais chacune de nos vies, chacune de nos situations. Et nous voulons te demander, Seigneur, que tu viennes affiner, Seigneur, notre compréhension de toi, notre perception de toi, et que nous soyons encouragés par cette bonne nouvelle, pour pouvoir te rendre l'honneur et la gloire qui t'est due. Nous te prions ces choses dans le bon nom de Jésus-Christ. Alors prenons ce texte de Matthieu 17, j'invite Luc à nous lire ce texte. Matthieu 17.
Bonjour à tous, Matthieu 17, je lirai dans la version second, les 9 premiers versets. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ils ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. »
Merci, merci Luc. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Et dans le contexte, et c'est ce que j'ai mis juste le petit bout de phrase, Paul va lister un certain nombre de choses qui sont contraires à cette bonne nouvelle, contraires à la saine doctrine. Quand on parle de doctrine, on parle de l'enseignement, de la doctrine chrétienne, de ce qu'on enseigne, des vérités bibliques. La saine doctrine doit être conforme à l'évangile de la gloire de Dieu bienheureux. J'espère que ce matin, le Seigneur va nous bouleverser, va ajuster notre vision de Dieu. Quelle est notre vision de Dieu? Si tu as dans ta vision de Dieu un être sévère, peut-être c'est ta vision des choses, un Dieu sévère. Peut-être que tu as la vision d'un Dieu qui est en train d'observer les hommes et qui n'attend que de corriger les hommes, de les reprendre. Mes amis, notre vision de Dieu n'est pas juste. Si tu ne vois pas Dieu comme un Dieu heureux, bienheureux, comme le dit Paul, ta vision est faussée. La vérité, le message que l'on veut partager concerne une bonne nouvelle d'un Dieu glorieux, bienheureux. Alors regardons un peu ce que ça veut dire. Et je résumerai un peu mon propos ce matin. C'est une super bonne nouvelle que Dieu soit glorieux, que Dieu soit heureux, parce qu'il a tout fait pour que nous entrions dans sa gloire, dans sa joie, pardon. C'est une super bonne nouvelle que Dieu soit glorieux, que Dieu soit heureux, parce qu'il a tout fait pour que nous entrions dans sa joie. Et c'est mon premier point, c'est simple, la gloire de Dieu est une bonne nouvelle. Et là, c'est déjà compliqué, je ne sais pas pour vous, mais la gloire de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? On parle d'un Dieu glorieux, qui manifeste sa gloire, qui attend de ses créatures qu'on lui rende gloire, honneur, qu'on l'adore. La gloire de Dieu. avant même d'essayer de définir la gloire de Dieu, on peut se dire parfois Dieu, il doit être un peu narcissique. Je m'explique. Il est glorieux et il veut que tout le monde l'adore. La gloire de Dieu, on peut avoir un malaise avec cela parce que, je sais pas vous, mais moi j'ai un peu mal, du mal parfois, je sais pas si c'est un complexe français ou c'est un complexe humain tout court, de voir quelqu'un sortir de la mêlée, de voir quelqu'un qui fait l'étalage de sa connaissance, qui fait l'étalage de son intelligence, qui fait l'étalage de sa force, qui fait l'étalage de son habileté, de sa sagesse, de son apparence, de sa richesse, tout ce que vous voulez. Regardez-moi. Les enfants qui font tout le temps qui sont en train de se chamailler, le mien, il est plus grand, il est plus beau, le mien plus joli. On n'aime pas quand quelqu'un se prend comme ça. On ne veut pas qu'il y en ait un qui soit meilleur que les autres. On peut avoir un certain malaise avec cette notion-là. Mais pourtant, Dieu dit qu'il est un Dieu glorieux. Hé, tout le monde, je suis l'être le plus grand, le plus beau de tout l'univers. C'est ce que ça veut dire, la gloire de Dieu. Je suis plus grand, le plus glorieux, l'être le plus accompli, le plus parfait. Rien d'extérieur à moi-même ne serait plus précieux que moi. Je sais pas quelle est votre réaction en réfléchissant à ça. Il n'y a pas plus grand que moi. Il se prend pour qui, Dieu? Enfin, on pourrait... C'est un peu narcissique, on pourrait dire. Il peut y avoir un certain malaise avec la gloire de Dieu. Mais Paul nous dit, conformément à la bonne nouvelle de la gloire du Dieu bienheureux, c'est une bonne nouvelle que Dieu soit glorieux. C'est une bonne nouvelle, la gloire de Dieu. Est-ce qu'on a déjà pensé à ça? C'est une bonne nouvelle que Dieu soit grand. C'est une bonne nouvelle que Dieu soit beau, soit supérieur. Dieu est un être glorieux. Dans le texte biblique, le mot grec qui est utilisé, c'est doxa. C'est quelque chose de splendide. C'est la beauté. Ça évoque un éclat, une grandeur, une dignité infinie. Parfois, Paul, quand il nous écrit une lettre, hein, dans des nombreuses lettres, quand il arrive à Dieu, d'un coup, il se perd et il est en train de décrire quelque chose de majestueux de Dieu. Il fait une doxologie. Parfois, il est en train de parler, d'un coup, il dit « Oh, Dieu !» Tellement de choses à dire. Il est émerveillé devant Dieu. Il nous parle de la splendeur de Dieu. Et là, Paul nous dit que la bonne nouvelle, c'est un Dieu glorieux. Il est splendide. On a un Dieu splendide. La bonne nouvelle, c'est un Dieu splendide. Et c'est vrai, quand vous partagez, vous regardez l'Écriture, toute la parole nous dit que Dieu est glorieux. Que d'ailleurs, même toute la création nous parle d'un Dieu de gloire. Ésaïe 6, qu'on connaît peut-être, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » La gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. Quand tu admires un coucher de soleil, le sommet des montagnes suisses, l'étendue d'une mer, les feuilles qui tombent, je sais pas quoi, tu es en train de voir le reflet de la gloire de Dieu. Voilà ce que dit la parole de Dieu. La gloire de Dieu. Dieu est splendide, Dieu est glorieux. Dieu est celui qui est le plus beau de l'univers. Et ça, mes amis, c'est une bonne nouvelle. Et c'est ce qu'on fait dans l'Église. On cherche à quoi? À rendre gloire à Dieu. On cherche à l'honorer parce qu'il est grand, parce qu'il en mérite l'adoration. On est une communauté qui cherche à Wittenheim, à adorer Dieu, à lui rendre gloire, à lui rendre doxa, on pourrait dire, si on prenait le mot grec. On avait vu dimanche dernier que l'unité de l'Église servait à quoi? À manifester la gloire de Dieu, à manifester la présence de Dieu, le rendre visible. Et vous avez peut-être déjà remarqué que moi, souvent, j'ai cette expression « Dieu est waouh !» Quand des fois, il y a des textes, il dit « Mais waouh !» C'est ça qui devrait nous subjuguer ce matin. J'ai pris l'habitude ces derniers temps de me promener, de sortir, pour méditer sur Dieu, pour me laisser bouleverser par lui. Et oui, je veux dire waouh, waouh. Est-ce que votre vision, c'est un Dieu auquel vous devez rendre compte? Ou un Dieu où dit, désolé Dieu de te déranger, mais j'aurais besoin que tu interviennes dans ma vie. Est-ce que c'est cette vision que vous avez de Dieu? Peut-être que c'est cette vision de dire « Dieu, je te demande à l'aide, tu vois ma circonstance, viens à mon secours. » Dieu, peux-tu me donner une minute de ton attention? C'est peut-être cette vision qu'on a de Dieu. Je sais pas vous, quand on parle de l'éternité qu'on va passer avec Dieu, l'éternité à adorer Dieu. Je sais pas si on va être comme ça, regarder l'heure et dire, ah tiens, 100 ans qui sont passés. Qu'est-ce qu'on va en... c'est quoi la suite? Adorer la gloire de Dieu. Je sais pas vous, mais notre cœur humain aspire quand même à voir la gloire. Réfléchissez juste un peu. On est fait comme ça. Quand on voit quelque chose de très beau, on peut être en admiration. Je sais pas quels sont vos dadas, mais parfois, on peut être en admiration devant un tableau peint. Waouh, l'œuvre de l'artiste. On peut pas s'empêcher d'être émerveillé. On peut être émerveillé devant un beau match sportif. On peut être émerveillé devant l'architecture d'une ville. Des bâtiments qui ont été construits. Et il y a une force de l'Église catholique, c'est quand ils ont construit des églises, mais ouf, extraordinaire. C'était justement pour montrer la grandeur de Dieu, enfin. Une vision grandiose de Dieu. Vous êtes peut-être du promeneur qui se balade dans les Vosges et qui voyait ce beau paysage qui s'étale devant vous. Wow, on est subjugué par des moments comme ça glorieux. On est en admiration devant parfois des acteurs, devant de belles voitures, de grandes écoles, des enfants. On est peut-être en admiration des fois devant une fleur. Oh, c'est beau. Et je sais pas si vous avez remarqué, quand on est en admiration, on a envie de le partager. Moi, souvent, quand je vois un paysage en voiture, je dis « Hé, Ruth, t'as vu ça ?» Parfois, elle dit « Ouais, elle me connaît parce que... » Non, mais on a envie de le partager quand on voit quelque chose qui nous fait plaisir, qui est beau. On aime voir la gloire, on aime voir ce qui est beau. Ça nous apporte de la joie. Et la Bible nous dit que Dieu est absolument glorieux. Dieu est absolument incomparable. Et tout ce que nous voyons dans le monde, tout ce que je viens de citer, est un reflet de la gloire de Dieu. Alors en fait, en disant ça, je me dis, mais qui voudrait d'un Dieu qui soit misérable, qui soit laid, qui soit mesquin, qui soit frustré, qui soit grincheux, qui soit déprimé, enfin vous pouvez mettre la liste que vous voulez de négatif. C'est lui ton créateur. C'est lui que tu adores. Et tu veux passer l'éternité avec lui? Non, 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 mais on veut un Dieu glorieux, c'est logique. Ô Dieu, on avait vu cette belle aspiration de David, hein, psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme soupire après toi. Je pense qu'on peut pas avoir ce type d'aspiration si on n'a pas en face de nous un Dieu qui est glorieux, qui nous dépasse, qui est beau, qui est grand, qui est tout ce que vous voulez. Moi, je veux un Dieu qui me fasse rêver. Je sais pas vous. Je veux que quand je marche dans la forêt en regardant un arbre, je me dise, waouh. Ça, c'est un reflet seulement de la gloire, de la grandeur, de la beauté, de la magnificence, de la toute-puissance de Dieu. Quand on passe tous de beaux moments avec des amis, autour de jeux, autour d'un beau barbecue, etc., tout ce que vous voulez. C'est des moments agréables, ces moments fraternels. Ces relations, ça fait un bien fou. Et ces relations, elles sont un reflet de la gloire de Dieu, d'une relation que Dieu nous permet de vivre. Et Dieu veut être en relation avec toi. Quand on voit un nouveau-né. Mais on est émerveillés souvent devant les bébés. On est émus. Et quand il nous fait un sourire, on est... Ouh. Soyons mes amis émerveilleux d'un Dieu de gloire. Un enfant, un rayon de soleil, une relation fraternelle, ça me parle d'un Dieu glorieux. Ça me parle de Dieu. C'est une bonne nouvelle de savoir que Dieu est glorieux, que Dieu est grand, qu'il est splendide et que tu ne vas jamais te lasser de voir sa gloire. Dieu est l'être le plus digne, le plus parfait, qui mérite toute notre attention. Alors quand on parle de Dieu, on devrait toujours parler d'un Dieu glorieux, d'un Dieu grand, d'un Dieu extraordinaire, d'un Dieu magnifique. Parfois j'étais quelqu'un, je le suis encore, de très timide. Mais on parle d'un Dieu glorieux, d'un Dieu qui est grand. Tu es en train de parler de Dieu? Ce matin, on est en train de parler de Dieu qui nous dépasse, de celui qui a créé l'univers, de celui qui a envoyé son Fils pour nous sauver. Ça met de l'ordre dans ses idées quand on réfléchit à ça. Ta vie va être belle si tu es en relation avec ce Dieu qui est tellement glorieux. Ce matin, hier soir, en faisant une petite balade, j'ai vu cette belle lune. Dieu créateur. Il est glorieux, il est extraordinaire. Je vois de belles choses, je vois une création. Cela me parle de Dieu qui est derrière tout cela. Dieu est glorieux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et cette simple gloire, qu'il est au-dessus de la mêlée, devrait nous encourager. C'est une bonne nouvelle. Un deuxième élément, et c'est peut-être celui qui est peut-être le plus surprenant, Dieu est heureux, bien heureux. Dieu est super heureux. Je ne sais pas comment on pourrait le prendre. Alors pourquoi je dis que c'est surprenant? Parce que rarement les termes dans la Bible sont associés à Dieu bien heureux. Dans le Nouveau Testament, on le retrouve qu'à deux occasions, et c'est dans 1 Timothée 1.11 et dans 1 Timothée 6, c'est Paul qui en parle. Quand Paul il dit « Dieu bienheureux », c'est comme s'il disait un Dieu béni. Rappelez-vous, je vous ai déjà parlé de ce que ça veut dire béni. Béni, ça veut dire comblé, être satisfait. Quand on dit qu'on est béni, c'est qu'on a la faveur de Dieu. Et là, Paul est en train de dire « La bonne nouvelle, c'est qu'on a un Dieu béni, un Dieu comblé. Dieu est un Dieu bienheureux. » Paul associe la gloire de Dieu à son bonheur. Alors, je ne sais pas vous, hein, c'est une deuxième question que je vous pose, mais est-ce que quand vous pensez à Dieu, vous pensez à un Dieu heureux? En tout cas, je dois reconnaître que ce n'est pas mon premier réflexe. Quand je pense à Dieu, et je confesse, hein, je me dis... Quand je pense à Dieu, c'est que je me sens coupable de quelque chose souvent. Lorsque je pense à Dieu, je l'ai déjà exprimé tout à l'heure, c'est que j'ai un besoin de Dieu. Lorsque je pense à Dieu par exemple lorsque je vois les infos et que je me dis, en voyant toutes ces choses horribles, je me dis, mais Dieu, tu es où? Tu es Seigneur, tu es où? Mais est-ce que nous pensons comme un Dieu heureux? Un Dieu bienheureux? Et je disais tout à l'heure, hein, le pasteur John Piper dit que ce mot bienheureux vient qualifier Dieu. C'est un adjectif. La gloire du Dieu bienheureux nous enseigne qu'une grande partie de la gloire du Seigneur se compose de son bonheur. Il est heureux. Et en fait, de savoir cela, ça devrait tout nous changer. Tout changer. Cette bonne nouvelle d'un Dieu de gloire qui est heureux, qui est bienheureux. C'est pas juste Dieu. Et c'est un Dieu heureux. Mes amis, un adjectif, ça change tout. Paul prend le temps d'associer Dieu, sa gloire, à son bonheur. Et je pense que c'est une qualité importante que parfois on néglige, que Dieu est heureux. Alors je voudrais nous poser la question, mais qui voudrait d'un Dieu malheureux? Le pendant de la même question. Est-ce qu'on peut imaginer la situation si le Dieu qui gouverne le monde n'était pas heureux? S'il était déprimé, découragé, sombre, triste, aigri, abattu, tout ce que vous voulez mettre, tous les synonymes que vous voulez. Dieu est heureux. C'est quand même une bonne nouvelle de vivre, d'avoir un Dieu qui est heureux, qui est comblé. Dans la mythologie grecque, hein, vous avez les dieux qui se combattent, qui sont pas heureux, enfin voilà. Non. Mais non, l'évangile de la Bible parle d'un Dieu, qui est heureux. Dieu qui est comblé. Et quand je médite cette réflexion-là, je pense que ça me libère d'un certain nombre de poids. De l'anxiété, par exemple, de l'inquiétude. Parce que ça me permet de dire, si Dieu, il est heureux malgré toutes les situations du monde, malgré que Dieu, il a dû, pour réparer ce qui était en conflit entre nous, il a dû nous envoyer son fils qui a dû souffrir, malgré cela, il est heureux. Qu'il est heureux malgré qu'on l'offense par notre rébellion, la misère, le péché. Il est heureux. Il est comblé en lui-même. Parce que je pense qu'il n'a pas le regard juste focalisé sur la situation, mais il voit le plan général. Le plan de gloire qu'il a préparé avec son fils. Vous savez, si vous êtes anxieux, parfois on peut être trituré dans notre quotidien, quand la semaine se passe mal. On peut faire plein de choses pour illuminer notre journée. On peut faire du sport. Peut courir, c'est efficace, ça défoule, une bonne séance et après tu dors peut-être bien. Quand on est dans une situation pas bien, peut-être qu'on invite des amis ou on se prend le temps de partager avec quelqu'un. On papote. Peut-être que l'anxiété va s'en aller. Peut-être c'est avoir une distraction, regarder une belle série, jouer à un jeu vidéo, je sais pas, qu'est-ce qu'elle est votre distraction pour vous faire sortir de la tête votre anxiété? Il y a plusieurs manières de le faire. Mais une des manières de le faire, et je pense que Paul veut nous montrer cela aussi, c'est de t'arrêter et de réaliser qu'on a un Dieu bienheureux. De réaliser qu'au-delà de nos défis de notre vie, on a un Dieu qui est là et qui est heureux. Dieu est heureux en ce moment, au-delà de nos stress, au-delà de notre malheur, au-delà de tout ça, au-delà de tout ce qui se passe ici-bas, il est heureux. Alors ça ne veut pas dire qu'il est indifférent, hein, attention. Il est heureux. Il nous a envoyé son Fils pour nos péchés. Dieu est parfaitement heureux et c'est une sacrée bonne nouvelle. Parce que ce Dieu bienheureux veut nous inviter dans son bonheur, veut nous inviter dans sa joie, veut nous inviter dans son repos. Rappelez-vous la prière de Jésus la semaine dernière, Jean 17, 24. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » On voit que cette prière que Jésus veut nous voir rassembler autour de lui parce que c'est l'endroit où est notre place, où on va être comblé. Je ne sais pas si vous avez déjà considéré l'évangile, la bonne nouvelle, comme cela. L'évangile, la bonne nouvelle, met tout en œuvre pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que nous entrions dans son bonheur qu'il veut nous offrir, dans son repos. Alors cette semaine, quand tu seras anxieux, abattu, découragé, tu as peut-être l'occasion de faire une bonne sieste, de faire du sport, de marcher, mais avant tout ça, prends peut-être 5 minutes et de se dire, il y a un Dieu bienheureux qui veut m'entendre parler et qui veut m'apaiser et qui veut me montrer sa grâce, sa bienveillance, qu'il est celui qui me donne l'eau de la vie, qui me contemple. Voilà ce qu'il est. Il est dans un état de grâce. Reviens à Dieu. Trouve un endroit tranquille. Viens contempler ton Dieu. Et pour moi, c'est un vrai temps de repos, de contempler Dieu bienheureux. Il vient nous apaiser par sa présence. Celui qui a tout créé, qui gère tout, est heureux et il met tout en œuvre pour que cette relation de paix, et il met tout en œuvre d'ailleurs pour qu'il revienne bientôt et que nous soyons avec lui. D'ailleurs, si vous réfléchissez, il nous a donné l'esprit. C'est quoi les fruits de l'esprit? La paix, la joie, la douceur. Dieu est un Dieu bienheureux et il veut nous voir entrer dans ce repos. Tu es dans une colère? Va vers Dieu. Tu es dans l'amertume? Va vers Dieu. Tu es dans l'anxiété? Va vers Dieu. Tu es fatigué? Va vers le Dieu bienheureux qui veut te donner du repos. Et je vous propose encore de rentrer dans du plus concret parce que la Bible, elle est encore plus concrète par rapport à cela. On pourrait parcourir tous les passages qui nous parlent de la joie de Dieu. Mais il y a un des endroits où Dieu est heureux par excellence. Qui nous parle que Dieu aime, que Dieu apprécie, qu'il se réjouit, qu'il prend plaisir. Et c'est un des points fondamentaux. La plus grande source de bonheur, la plus grande joie du bienheureux de Dieu, c'est son Fils. C'est son Fils. Jésus-Christ, la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on a lu le passage de Matthieu 17. Dans ce passage, on a vu que Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean en haut dans une montagne. Et une fois qu'ils se retrouvent tout seuls, quelque chose d'étonnant se passe. Tout à coup, Dieu donne à Jésus une apparence quoi ? De gloire. Verset 2 du chapitre 17 de Matthieu, « Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. » Là, on a la vision d'un Christ glorieux. Ensuite, au verset 5, « Une nuée lumineuse les enveloppe et Dieu parle à ses disciples. » Et qu'est-ce qu'il nous dit ?« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Écoutez-le, celui qui fait toute ma joie. Dieu donne à ses disciples à ce moment-là un aperçu de sa gloire, un aperçu de sa joie, mon Fils. Jésus dit 2 choses, j'aime mon Fils, voici mon Fils bien-aimé. Et je prends plaisir en lui, celui qui fait toute ma joie, qui a toute mon approbation. Dieu prend plaisir en son Fils. Lorsque Dieu regarde son Fils, Dieu apprécie, Dieu admire ce que Christ a fait. Il estime ce qu'il voit. Il prend plaisir en son Fils. Et c'est ce que la bonne nouvelle est, et c'est ce qu'on a rappelé ces dernières semaines. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est l'œuvre de Christ. C'est ce qu'il a accompli. Alors, comme un dernier point, peut-être un peu plus rapidement, mais entre, c'est une invitation à entrer dans la joie et la gloire de Dieu. Et c'est ce que peut-être m'a interpellé dans ce passage, c'est que être chrétien, c'est apprendre à contempler ce Dieu de gloire, apprendre à contempler Christ. Et plus je vais contempler Christ, plus je vais lui ressembler. Hébreux 1, versets 2 et 3 nous dit « Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par qui ? Par le Fils. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Trouvez ma joie en Jésus, puisqu'il fait la joie de Dieu. » Vous voyez le raisonnement ? Si on vous demande pourquoi Dieu est tellement heureux, pensez à son Fils. Dieu n'est pas seulement heureux parce qu'il est parfait, il est heureux parce que son Fils fait sa joie. Par son Fils, il a créé l'univers. On le voit ça dans Jean 1, par exemple. Par son œuvre de Christ, sa vie, sa mort, la résurrection, le Père a refait l'univers. Le Père contemple le Fils. Et il nous dit, il est parfait. Contemplez-le, écoutez-le. Voilà tout ce qu'on doit avoir, le Christ. Et la clé pour comprendre un Dieu glorieux, pour comprendre un Dieu joyeux, il faut regarder Christ. C'est aussi simple que cela. Et on le dit souvent, hein. Tu veux apprendre à connaître Dieu? Tu comprends pas trop Dieu? Va vers Jésus. C'est ce qu'on dit peut-être un peu facile. Mais c'est cela. Trouve la justice de Dieu en Christ. Trouve la grâce de Dieu en Christ. Va te réconcilier avec Dieu en Christ. En Christ, tu vas voir la colère de Dieu. Parce que c'est là-dessus c'est en Christ que cela s'est abattu. Et quand tu es en train d'admirer Christ, tu es en train de te joindre à Dieu qui est en train de trouver toute sa joie dans le Fils Jésus-Christ. Alors le moyen pour devenir semblable à Dieu, c'est de fixer notre regard sur Christ. Et c'était ce qu'on avait vu aussi dans la prière la semaine dernière. C'était qu'au travers du Fils, on voyait quoi ? On voyait le Père. Fixons nos regards sur Christ. Vous savez, mes amis, on fredonne la musique qu'on écoute. Je parle avec l'accent de ma région. On adopte les bonnes ou les mauvaises manières de nos parents. On a tendance à imiter les personnes que l'on admire le plus. Et c'est la même chose avec Dieu. Si nous sommes attentifs à Dieu, si nous sommes captivés par sa gloire, par sa joie, nous serons transformés en son image. C'est ce qu'il fait en nous. Si un ado a tendance à arranger sa coiffure à la manière de ceux qu'il admire ou de ceux qui l'entourent, le chrétien devrait ressembler à Christ, au caractère de Dieu, s'il est attaché à Christ, si nous l'admirons, voir la gloire de Dieu, voir la beauté de l'évangile. Voilà une bonne nouvelle. Et c'est clairement pas abstrait. Quand on voit une nouvelle naissance, on est captivé. On est joyeux, on peut pas se priver d'être heureux avec les parents. Quand vous êtes invité à un mariage avec des personnes que vous connaissez, vous êtes heureux, vous êtes joyeux, vous entrez dans la joie de cet événement. Mais si on voit un Dieu heureux et qu'on est invité à sa présence, vous imaginez les conséquences sur notre vie ? Dieu de gloire, un Dieu bienheureux, ça se partage. Il nous fait entrer dans la joie de Dieu. Jésus-Christ. Et lorsqu'on se réunit, lorsqu'on chante la gloire de Dieu, de Christ, on entre dans le bonheur de Dieu. C'est littéral. Hein ? Voilà ce que dit Dieu. Regardez mon Fils. Regardez ce qu'il a fait. Voyez comme il est splendide. Il est merveilleux. Il n'y a pas d'autre sauveur qui soit venu sur la terre pour vous sauver. Pécheurs, rebelles. Et il a fait de nous quoi ? Des enfants de Dieu, des co-héritiers. Il nous rend participants, et ça c'est d'autres versets qui nous le disent, il nous rend participants à la gloire de Dieu. Voilà, vous trouverez plein d'expressions comme ça. Nous annonçons une bonne nouvelle de la gloire du Dieu bienheureux. Paul ici nous invite à contempler ça. À voir que nous avons un Dieu de gloire, un Dieu grand, un Dieu qui nous dépasse. Un Dieu qui est heureux parce que sa colère a été apaisée, parce que sa joie est en son Fils. Alors je voudrais nous lancer comme un défi, si t'es pas chrétien, Si tu connais pas ce Dieu-là, intéresse-toi à Jésus, tout simplement. Essaye de comprendre ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a montré. Et peut-être cela va te bousculer. Peut-être que nous, qui avons peut-être contemplé, reçu cette bonne nouvelle depuis un certain temps, peut-être que nous avons besoin de reconsidérer sa gloire. La vie, la mort de Jésus-Christ ici-bas a eu lieu afin que sa joie, celle de Dieu, devienne nôtre et que notre joie soit parfaite. Notre Dieu est glorieux, mes amis, et c'est une vraie bonne nouvelle. Moi, je voudrais pas d'un Dieu misérable. Nous avons un Dieu qui est bien heureux, et ça, c'est une extraordinaire bonne nouvelle, parce que je voudrais pas d'un Dieu malheureux. Et ce Dieu-là trouve sa plus grande source de gloire et de joie dans son Fils Jésus-Christ. C'est une super bonne nouvelle. Que Dieu soit glorieux, heureux, parce qu'il a tout fait pour que nous entrions, pour que nous soyons dans cette joie-là.